Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour professeur Didier Pittet.
Bonjour.
Médecin infectiologue et épidémiologiste suisse, auteur du livre « Vaincre les épidémies » paru en octobre dernier chez Hugo Doc et chargé par le président Macron d'une évaluation indépendante sur la gestion de crise en France. Vous remettrez votre prochain rapport en avril ?
En avril, oui, ce sera le rapport définitif en fait. Il doit être rendu en avril parce que l'Organisation mondiale de la santé avait demandé au cours de l'Assemblée mondiale de la santé de l'an dernier, c'est toujours au mois de mai, à la dernière semaine du mois de mai, que chaque pays fasse cet exercice. Et au fond, Emmanuel Macron nous a donné dans la lettre de mission la consigne que ce rapport serait la part de la participation de la France à cette demande.
Le rapport sera définitif, mais l'épidémie toujours en cours.
Ça va terminer, j'en conviens. Et c'est ce qui rend aussi l'évaluation un tout petit peu difficile.
Ah,
au départ,
oui.
Il était question d'évaluer évidemment la première période. Ensuite, Emmanuel Macron a prolongé un peu le mandat, mais on va devoir rendre avant l'Assemblée mondiale de l'OMS.
Oui, c'est sans doute pas la seule raison de la difficulté de la tâche. Comment évaluer, Didier Pittet, quand les paramètres sont tellement nombreux et les regards, y compris scientifiques, si dissemblables?
Oui. Alors écoutez, tout d'abord, s'il y avait un guide de comment évaluer une gestion, ce serait simple, on l'aurait appliqué, il n'en existe pas.
Oui.
Mais la première des choses, c'est d'évaluer quels sont les paramètres objectif. Et le premier paramètre objectif, malheureusement, c'est le décès, la mortalité.
Ouais.
Encore faut-il comprendre la mortalité dans un pays. Donc, nous avons travaillé avec l'excès de mortalité attendu. Je ne rentre pas dans les détails techniques, peu importe. Qui est le premier paramètre avec lequel on peut comparer les pays les uns avec les autres. Et on voit évidemment des différences et elles sont restituées dans le rapport. C'est une première chose. Ensuite, on imagine évidemment d'analyser les pertes de chance. Ces pertes de chance, encore aujourd'hui, elles sont imprécises et c'est assez compliqué. Puis ensuite, ce que nous avons fait, c'est de revoir les plans pandémie. Chaque pays en avait. Pourquoi ont-ils été mis en place? Pourquoi pas? Pourquoi les pays ont-ils hésité, etc. Et puis, finalement, nous avons fait toute une série d'entretiens, d'interviews avec toute une série de personnes impliquées dans la gestion de crise. Et puis ensuite, on fait des recoupements, de même que des analyses qualitatives sur le terrain.
Plus compliqué encore, j'imagine, essayer d'évaluer les stratégies, les objectifs fixés et leur réalisation, les modalités. Je reprends l'opposition qu'on a essayé de souligner dans le journal. La France, qui met la pédale douce, la plus douce possible, si je puis dire, sur les restrictions, en espérant tenir jusqu'à la mi-avril avec les progrès de la vaccination. Et en Allemagne, Angela Merkel qui continue, elle, d'appuyer sur le frein avec un déverrouillage très progressif, très prudent, et pourtant, il faut le souligner, une incidence épidémique bien inférieure à celle de la France en Allemagne.
Tout à fait.
Qui a raison et comment départager ces deux stratégies?
Alors je vais vous dire, vous allez me le reprocher peut-être, mais savoir qui a raison, on le saura seulement dans quelques années. Par exemple, si vous maintenez les écoles ouvertes, ce qui est le cas en France, ce qui est le cas en Suisse par exemple, ce qui est le cas dans certains pays, eh bien évidemment vous allez avoir des enfants qui, dans leur éducation, vont être beaucoup moins perturbés, des problématiques sociales qui ne seront pas aussi importantes que si vous avez fermé les écoles.
Et la France, les chiffres de l'UNESCO l'ont souligné hier, la France est l'un des pays au monde qui a le plus gardé ses écoles ouvertes. Avec la Suisse, je crois.
Avec la Suisse,
la Suisse est pas loin.
Mais vous voyez, la Suisse, par exemple, a très bien géré la première vague, beaucoup moins bien la deuxième vague. La Suisse a souffert de son fédéralisme, tout comme l'Allemagne a des difficultés envers son fédéralisme. Ça ne veut pas dire qu'un pays centralisé a tous les bénéfices. Certaines décisions sont beaucoup plus simples à prendre. L'application de ces décisions est parfois un peu plus compliquée.
Oui. Donc, pour en revenir sur cette opposition France-Allemagne, on voit que les deux situations ont des inconvénients et parfois des avantages. Les Français manifestent de l'impatience face à ces restrictions qui durent maintenant depuis de longues semaines. Un couvre-feu à 18h. Les Allemands sont encore plus enfermés dans un... Ce qui n'est pas tout à fait un confinement, parce que les Allemands peuvent se déplacer. Ce n'est pas un confinement à la française, mais des commerces fermés maintenant depuis la mi-décembre. Et des objectifs finalement beaucoup plus sérieux, beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés que ceux de la France.
C'est des choix difficiles, parce que tout est pesé d'intérêt. tout est posé d'intérêt. La seule chose qu'on peut déplorer, ce sont les décès. Et c'est pour ça que ce sont les décès et les décès liés à la maladie et l'excès de mortalité que nous utilisons comme paramètres essentiels. Ces paramètres évoluent au cours du temps. Et on voit bien que la pesée d'intérêt est extrêmement compliquée et qu'il va falloir finalement refaire une analyse à distance de la crise. Je crois qu'il faut être extrêmement humble. Effectivement, on dispose d'indicateurs et on a bien compris que les décisions ne sont pas prises au hasard. Les indicateurs qui sont générés de la manière la plus précise possible sont utilisés justement pour pondérer les décisions. Et puis ensuite, l'acceptation et l'acceptabilité des stratégies est évidemment fondamentale. N'oublions pas que si chaque citoyen dans chaque pays a bien compris les consignes, hygiène des mains, distanciation sociale, masque quand nécessaire, aller se faire tester au moindre doute, ou en tout cas respecter quand on vous propose un test, et puis se mettre en quarantaine, voire même avant de se faire tester si possible, si on a un doute, ce sont les éléments principaux du fait de pouvoir sortir tous ensemble de cette situation, avec évidemment la vaccination.
Et si ces consignes étaient strictement... mais absolument, strictement respecté,
on arrêterait.
L'épidémie s'éteindrait.
Elle s'éteindrait tout de suite.
Est-ce que vous trouvez que les Français ont conscience suffisamment, peut-être davantage qu'au début de la crise, qu'ils sont aussi responsables collectivement et individuellement, d'une certaine façon de...
Je l'espère, mais ça c'est dans mon optimisme. Non, je crois que aucune culture, aucune nation, en dehors de peut-être certaines nations qu'on ne discute pas ici aujourd'hui,
en Asie
en particulier, n'est suffisamment imprégnée de cette culture de la prévention du risque. Les Allemands, on en a parlé tout à l'heure, ont aussi manqué de respect par rapport à une série de consignes. Les Suisses, dans mon propre pays, l'ont fait. Les Français se sont certainement très opposés à certaines mesures, mais les respectent tout de même, parfois, mais pas tout le temps. Et voilà, on voit que c'est très complexe parce que finalement, c'est le facteur humain qui, au bout du compte, compte énormément.
Avec la question toujours non résolue de la façon dont on fait passer ces messages à la population.
La communication.
La communication, les accusations d'infantilisation ou de déresponsabilisation quand il y avait des messages un peu trop stricts, trop précis. Et aujourd'hui, ces messages, ils ont...
On a vu une vraie évolution dans cette communication. On a des exemples. Récemment, Emmanuel Macron a demandé à des youtubeurs de participer à cette mobilisation. C'est juste, c'est d'obtenir une certaine, on appelle ça en communication, de la ségrégation. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même façon aux personnes de 15 à 25 ans qu'on parle à celles qui ont 35 à 45 ou autres. Et donc, je pense que, voilà, oui, en termes de communication, chacun a appris aussi, encore une fois, il faut être extrêmement humble par rapport à cette gestion de crise. On apprend tous et tous les scientifiques apprennent, tous les politiques apprennent, tous les journalistes apprennent.
Oui.
Et à cette fin-là, on obtient certainement une meilleure, et on l'espère, une meilleure adhésion de la population aux consignes.
Est-ce que la campagne de vaccination fait partie de votre évaluation, professeur Pittet ?
Alors écoutez, elle fait partie de notre évaluation, pas de manière aussi approfondie que les autres problématiques sur lesquelles nous avons été amenés à travailler, parce qu'évidemment, les problématiques sont un peu plus récentes. Mais oui, elle en fait partie, elle fera partie de notre rapport. On n'arrive pas forcément à conduire toutes les auditions qu'on aimerait conduire, pour des raisons qu'on comprend bien. Et il faut aussi dire que cette campagne de vaccination, on peut la juger aujourd'hui, mais ce qui sera important, c'est de la juger au mois de juin, probablement, ou à la fin du mois de juin, début de l'été.
Et compte tenu de cette avancée vaccinale, est-ce que cette perspective de mi-avril qui a été tracée hier par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, comme éventuellement, alors sa phrase est très prudente, hein, le retour à une vie plus normal, peut-être en vue.
Écoutez, je crois qu'il y a la vaccination, c'est un des paramètres. Il y a aussi les paramètres de continuer les mesures qui sont appliquées en ajoutant certaines mesures. On a vu, par exemple, confinement dans la région du Pas-de-Calais. C'est normal, ça va avec la propagation épidémique, ça va avec ce virus qui se propage de cette façon-là. Et je pense que on peut imaginer qu'il y aura aussi l'effet température. Votre collaborateur Patrice nous a rappelé que le froid allait revenir, le virus aime bien le froid. Donc c'est vrai que d'ici 6 semaines, 5 à 6 semaines,
on aura un peu moins froid.
On aura une vision qui sera un peu plus adéquate et qu'il faut dès aujourd'hui préparer la ce qu'on appellera peut-être la réouverture ou le relâchement de certaines mesures.
Merci beaucoup professeur Didier Pittet, vaincre les épidémies chez Hugo Doc. Et puis j'en profite pour rappeler cet excellent roman dessiné, reportage dessiné de Chapatte au cœur de la vague paru aux Arènes,
oui,
dont
fait.
Vous êtes l'un des héros, parce qu'on voit que dès début mars, il y a exactement un an, vous étiez un précurseur, un lanceur d'alerte, vous aviez vu la catastrophe arriver. Merci à vous.